l'actu est forte. Il y a notamment ce match qu'on va vivre demain soir en intégralité sur Europe 1. Ce sera à partir de 21h10 au Stade Vélodrome, qui sera d'ailleurs quasiment plein. Alors qu'il faut quand même acheter les places. Hein. C'est pas que les abonnés. On ne vient pas comme ça automatiquement hein, pour la Coupe. Il faut acheter sa place. Il y aura normalement entre 55 000 et 60 000 spectateurs pour l'Olympique de Marseille face à Rennes, qui s'annonce, toi, moi je le vis comme ça, comme l'une des plus belles affiches de ce début d'année, parce qu'on va avoir affaire, Grégory Schneider, à deux des équipes les plus séduisantes en France depuis un bon moment.
Oh bah vous mettez Lens sur la tartine, ouais, et vous avez, plus, trois, ouais, vous avez les trois, ouais. Effectivement. Mais alors non, cela dit, oui, voilà, quand j'ai vu le débat, il y a quand même quelque chose qui, je pense qu'il y en a une qui est beaucoup plus forte qu'une autre, que l'autre, moi. Ah. Donc je trouve que, ouais, c'est, ils habitent pas tout à fait, je pense que Rennes habite pas tout à fait au même étage que l'Olympique
de Marseille. Et au-dessus ou en dessous?
Rennes est au-dessous de Marseille.
Ah bon? Ah oui. Mais Rennes a battu le Paris Saint-Germain.
Oui, mais je pense que l'OM, il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de spécial. Rennes, c'est toujours un coup, un coup non, c'est toujours un. Et je pense que quand même, enfin, en tout cas, ce que je vois de Marseille depuis le début me fait une toute autre impression que ce me fait Rennes. Rennes, j'aime bien, c'est technique, c'est léché, c'est, il y a quelque chose, il y a de la vitesse, il y a de
bons. C'est quasiment les meilleurs stades de l'histoire du club aussi. Hein.
Oui, mais non, mais il y a de bons petits joueurs, ouais. il y a de. Mais je trouve que Marseille, on parle d'un peu autre chose quand même.
Très bien.
On parle d'une équipe qui est un peu auprès, était à un arrêt près, était en huitième de finale de Ligue des Champions. On parle d'une équipe qui roule depuis un mois sur tout ce qui passe à portée. On parle d'une équipe qui affiche 16 buteurs différents. Il faut quand même mesurer ce que ça veut dire en termes de. Et si je vous dis là, nous, si on essaie de discuter sur qui est l'homme fort, on va sortir 4 noms différents. Donc ça dit quelque chose, je trouve, d'un peu spécial et de pas courant, en fait.
Très bien. Donc l'OM qui serait au-dessus de Rennes, est-ce également votre avis, Jimmy Algerino?
Enfin, au-dessus, on va dire, par rapport à l'effectif et ne serait-ce que déjà au classement du championnat de France. Après, avec cette victoire de Rennes contre le Paris Saint-Germain, et puis sachant que c'est la Coupe de France, je suis moins. Ça aurait été un championnat. J'aurais dit oui, mais en Coupe de France non, parce qu'on sait l'importance qu'a la Coupe de France pour Monsieur Pinault. Les Rennais sont prévenus, et surtout avec le match contre le Paris Saint-Germain, et vraiment avec un très très beau match, ça peut donner encore plus d'envie et encore plus d'appétit aux Rennais, même si effectivement avec Kalimuendo, la blessure de Kalimuendo, ça atténue encore un peu plus l'équipe. Mais en tout cas, ils ont fait preuve de beaucoup de solidarité, beaucoup d'envie, même si bon, le public ne sera pas là pour les aider. Mais en tout cas, on peut compter sur Genesio et la volonté des Rennais de se positionner parmi les meilleurs clubs en France. Pour faire un coup et mettre en difficulté cette équipe de Marseille à domicile.
Oui, parce que vous l'avez vu hein, ce match, et vous l'avez même commenté sur l'antenne d'Europe 1, Jimmy, avec Stéphane Bagnier et avec Cédric Chasseur. Donc Cédric, vous avez un œil acéré sur cette équipe rennaise qui, malgré les absences de Terrier, celle de Bourigeaud et donc la blessure de Kalimuendo désormais, eh bien, a réussi à battre un PSG qui n'était peut-être pas à 100%, mais c'était quand même une belle prestation collective.
Oui, la jeunesse a quand même une vertu, c'est qu'elle ne manque pas d'envie et elle ne manque pas de courage et elle ne manque pas non plus de vivacité. Et on a vu que face au Paris Saint-Germain, en tout cas, une équipe qui était quand même sur les côtés assez ouverte, le Stade Rennais a quand même bien utilisé les espaces, et malgré les blessures de Terrier, l'absence de Tcheka, de Bourigeaud, il y a quand même des talents qui sont parfois un peu en dents de scie, ça c'est vrai. C'est le regret qu'on peut avoir avec le Stade Rennais, c'est que les résultats sont pas toujours au même niveau d'une semaine à l'autre. C'est le seul regret encore qu'on peut avoir avec cette équipe du Stade Rennais. Maintenant, moi, je suis un tout petit peu plus mesuré que Grégory. Je pense que, sur un match de Coupe de France, où Marseille va peut-être aussi un tout petit peu faire tourner par rapport à...
Moins en mètre, ouais.
Voilà,
ouais.
Je me dis... en plus, il n'y a pas de prolongation. Donc, si ça va avoir un match nul, ça peut jouer au tir au but. Bon, je pense qu'il y a plus match que peut-être en championnat où Marseille, face à une équipe rennaise un peu plus diminuée, aurait... Et en plus, il faut se dire un truc, hein, Marseille ne joue plus de Coupe d'Europe. Donc Marseille va, d'ici la fin de la saison, un match par semaine, il n'y a plus la fatigue. Rennes, ils vont être au charbon face au Shakhtar Donetsk au mois de février, deux fois en deux semaines. Donc ça va continuer. Et ça, plus les blessures, ça peut jouer, ça peut pénaliser l'équipe de Rennes.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, j'ai l'impression que le format coupe aurait tendance, d'après vous, à avantager davantage le Stade Rennais. Avant d'entendre Javier Prieto Santos sur le sujet, on va écouter Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes, qui est celui qui possède, je le disais tout à l'heure, les meilleures statistiques de l'histoire du Stade Rennais, hein, en proportion des matchs qu'il a dirigés avec le club breton. Alors, priorité ou pas, championnat, Coupe de France, lui, manifestement, il veut tout gagner.
Nous, on est des compétiteurs. Moi, je suis un compétiteur. Donc, je ne peux pas dire je préfère gagner la Coupe de France et finir cinquième du championnat, ou dire je préfère finir deuxième et ne pas gagner la Coupe de France. On veut tout gagner. Enfin, on veut aller au maximum de nos possibilités dans toutes les compétitions. Sinon, on ferait un autre job. Une Coupe de France, ça reste gravé à jamais dans l'histoire d'un club. Un titre de champion de France, ça reste gravé à jamais dans l'histoire d'un club. Lorsque vous terminez deuxième ou troisième qualifié en Champions League, oui, ça a un retentissement, mais il n'y a pas de titre. Donc évidemment qu'un titre, c'est plus important qu'une qualification en Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit.
Il transmet cette gagne. Il était au micro de Charles Guyard, Bruno Genesio, Javier Prieto Santos. Il transmet cet esprit à Rennes. C'est vrai, hein, il disait tout à l'heure, Grégory, c'est une équipe, c'est un petit peu des intermittents du spectacle. Les Rennais, parfois séduisants, enthousiasmants, virevoltants, avec Maier, notamment le Croate, qui est un magnifique joueur. Mais parfois, on se demande pourquoi ils perdent des matchs.
Il manque un peu de dureté, en fait. Ouais. Il manque un peu de... On sent cette espèce de... Alors, par contre, à Marseille, à tous les étages, vous l'avez.
Javier, cette équipe de Rennes mérite-t-elle qu'on s'intéresse et qu'on se passionne pour elle?
Ah, évidemment. Ouais. Et vous l'avez dit, Genesio affiche les meilleures stats de l'histoire du Stade Rennais. Et moi, ce que je constate cette saison, et ça me fait énormément plaisir, c'est que l'entraîneur de Marseille affiche également un début de saison canon. Je crois que c'était le meilleur de l'histoire de l'OM.
Au 21e siècle.
Au 21e siècle. Que Lens, jamais un entraîneur a fait aussi bien que
10 sur 10 à la maison.
Que donc Rennes, que le PSG, je crois, était également parti sur les chapeaux de roue. Donc, ce que je constate, c'est qu'on a quand même des entraîneurs qui sont ultra compétents, ultra développés. Hier, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Paulo Fonseca pour ce foot.
Le Lillois,
et ça fait très longtemps que je n'avais pas eu affaire à un coach en France avec un tel niveau d'analyse et qui savait employer des mots pour vous passionner pour le football. Normalement, c'est très sommaire. Et là, moi, je constate qu'on est de plus en plus dans la surenchère du talent.
On commence à bien travailler en France.
Alors. Exactement.
On se plaignait pendant des années qu'on n'avait pas des dirigeants, des staffs à la hauteur de notre Ligue 1.
Et ces gens-là...
Régis Lebris à Lorient aussi.
Exactement.
Mais c'est la récompense de la prise de risque des clubs.
Évidemment.
Qui ont osé, parce que c'est pas tous ceux que Javier a cités, ils n'ont pas la carte. Hein. C'est pas ceux qu'on voit régulièrement pour venir sauver les clubs.
Exactement.
C'est
pas
ceux qu'on voit revenir inlassablement à saison après saison. On perd son job. Non, bon, on les récupère un an plus tard.
Vous avez
dans
des noms, Cédric?
Non, mais on les connaît. On les connaît.
Non, mais René Girard.
Des Pascal Duprat, René Girard.
Malheureusement, ces gens-là, avec leur performance en club, avec leur club, démasquent un peu d'autres coachs qui travaillent un peu moins. Je regarde un peu vers Lyon. Mais bon, j'attends de voir.
On va en parler dans un instant.
Et sinon, le Stade Rennais méritait évidemment qu'on s'intéresse à eux. Alors effectivement, cette équipe est à l'image de Genesio. Genesio, il dit, je suis compétiteur, c'est le nouveau marronnier du football. On est des compétiteurs, très bien. Tout le monde est compétiteur, même Ajaccio, même le dernier, même tout le monde est compétiteur.
Oui.
Mais Genesio, il l'a avoué parfois et souvent, choisit aussi ses matchs parce qu'il a quelque part cet esprit revanchard. C'est-à-dire que lorsqu'il joue contre Paris, lorsqu'il doit affronter Paris, lorsqu'il doit affronter Marseille, lorsqu'il doit affronter les équipes du haut du classement, il en met toujours un peu plus que lorsqu'il affronte des équipes du milieu ou du bas de classement. C'est comme ça, parce qu'il a envie de montrer que lui aussi et que cette équipe vaut pour le plus haut niveau. Et ils sont un peu dans... Il y a cette histoire d'ego, je pense, qui va rentrer en ligne de compte. Et je suis d'accord aussi avec ce qu'a dit Jimmy. C'est ce qui peut permettre, même si c'est un OM avec des remplaçants, Genesio, il ne va pas voir ça. Il va voir que c'est l'OM, il va voir que c'est l'équipe à la mode et il va vouloir le scalp de ce Marseille très
spectaculaire.
Élégant, très spectaculaire.
Jimmy, sur l'Olympique de Marseille, peut-être ? parce qu'il faut qu'on avance dans le débat aussi.
Oui, non, je voulais juste rajouter, oui. Et puis je parlerai de l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai que tout à l'heure, Greg parlait du manque d'agressivité de Rennes. Moi, je crois pas, c'est ce que vient de dire Javier, c'est qu'en fait, les Rennais, en fait, sont très très bons face aux grosses équipes. Par contre, face aux petites équipes, ils ont une tendance à jouer un peu trop facile. On l'a vu en Coupe de France contre Bordeaux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont pas dans les trois premiers, malgré le jeu et malgré les capacités qu'ils ont. Donc c'est pour ça que le match contre Marseille va être très intéressant et effectivement ça va être une belle affiche. Mais bon, quand on sait la grinta et la volonté que leur coach, que Tudor met sur tous les matchs et aussi ce que représente la Coupe de France quand même pour l'Olympique de Marseille, ouais. On peut s'attendre à, je dirais, pour moi, un début de match assez tonitruant des Marseillais, sachant que voilà, ils sont à domicile et qu'en plus de ça, faut pas oublier que Rennes va jouer un derby très très chaud à Lorient le prochain match. Donc je pense que tout ça a été bien expliqué, bien préparé pour mettre en danger les Rennais dès le coup d'envoi.
Jimmy, je voulais vous entendre quelques mots sur cette équipe de l'OM qui est, j'allais dire, à la mode, hein, comme vous le disiez tout à l'heure aussi. C'est une équipe qui impressionne. Régis Lebris, on en parlait, l'entraîneur de Lorient, n'a pas caché son admiration face au système de jeu, face aux valeurs qui sont développées sur le terrain. Vous êtes d'accord avec ça ou il faut un petit peu pondérer?
Non, il faut pas pondérer. Enfin, bon, on en a parlé, je sais plus quand, à l'antenne. N'oublions pas que l'Olympique de Marseille est taillé pour la Ligue des Champions. Il y a un effectif pour la Ligue des Champions. Malheureusement, effectivement, Greg l'a dit, ça, il s'arrête pour un poteau, pour bon, voilà,
un fait de jeu. Mais une mauvaise gestion de fin de match aussi.
Exactement. Ouais. Mais l'effectif marseillais est d'une qualité assez exceptionnelle. Et puis ce duo Tudor-Langoria est quand même, ça fait des étincelles parce que Langoria n'est pas allé chercher Tudor, de dernière minute comme ça parce qu'il n'avait pas le choix. Et Tudor sait ce qu'il est capable de faire. Il a une envie, je dirais, croate qui transpire. Ne serait-ce que déjà sur le banc, et vous êtes le premier à le voir régulièrement, Jeff. Ouais. Et puis surtout, c'est que il amène ses joueurs, et ça c'est un peu le signe des très bons coachs. Ça veut dire qu'il amène ses joueurs et il les fait progresser. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et ce qui manquait peut-être à Marseille, voilà, pour créer de nouveau l'engouement, l'élan qu'a besoin l'équipe. Et cette stabilité aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Tudor a rajouté de la stabilité dans une équipe et dans un club qui a manqué profondément.
Ah bah oui, c'est le maître mot de Pablo Longoria, de toute façon. Hein, la stabilité, ça n'a pas été facile. Grégory Schneider, on va en terminer avec vous sur ce débat autour de Marseille-Rennes, hein, qu'on vivra demain sur Europe 1. Ça n'a pas été facile pour Tudor, qui a été sifflé très longtemps par les tribunes, qui a peut-être même failli prendre la porte un peu prématurément, qui est toujours là et qui, ça c'est quand même aussi un autre signe de la valeur de notre championnat cette année. L'Olympique de Marseille, c'est plus de 2 points par match. Plus de 2 points par match, normalement, champion. C'est champion. Ouais. Ils sont 3e.
Oui, mais si vous voulez, je suis un peu en porte-à-faux par rapport à ça, et c'est ça que je voulais ajouter. C'est-à-dire qu'on est dans une Ligue 1 qui est de plus en plus, comment dire,
déséquilibré.
Ouais. C'est-à-dire que vous voyez vraiment voisiner des équipes. Quand vous imaginez que sur le même terrain, il y a le PSG et Ajaccio, ou même sans aller jusque-là, mais vous regardez par exemple Troyes et Brest, ça n'a rien à voir. C'est pas la même planète. Alors on a l'air, on regarde un peu de haut, oui, non, Troyes. Regardez un peu les attaquants qui sont contrats et regardez les attaquants qui sont à Brest. Regardez un petit peu les salaires.
C'est-à-dire on a toujours jalousé le Big Four en Angleterre. Pour une fois qu'il y a des
locomotives. Ouais, mais c'est pas tant. Oui, mais
je trouve que c'est réjouissant.
Non, mais ça veut dire que les autres, le petit peuple crève la faim. Allez-y, allez les voir. Faites-les parler, c'est ce qu'ils vont vous raconter. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué. Quand Ajaccio essaie de faire un attaquant, ils peuvent le payer 40 000 balles. Et pas 60 000.
Non, mais ça, c'est vrai.
Je veux dire, on peut pas.
Bien sûr.
Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même des
points. Ils ont quand même réussi à faire venir Belaïli, qui pour l'instant se révèle une sacrée pioche.
Oui, mais parce que c'était quasi gratos, parce que le mec était.
Bah oui, mais Longoria à Marseille, il fait comme ça. Hein,
oui, mais.
Dans un autre genre.
Ouais, mais t'as quand même des mecs
avec
comme
ça. Avec d'autres moyens.
Oui,
avec l'OM. Enfin, l'OM, faut pas être juste malin.
Non, mais faut
être super malin.
Et il faut avoir des raisons. Un mec comme Chancel Bemba, il n'y a pas 4 clubs français où il peut descendre quand même. Avec un CV pareil. Ce que je veux dire, c'est que.
Cavalli, il doit vraiment user d'imagination.
faites rentrer quand même des, vous faites rentrer des points plus facilement qu'il y a 5 ou 10 ans. Donc ces records-là, je pense, vous allez voir, ont vocation à sauter. Relatif non, parce que les matchs, il faut les gagner, on n'est personne. Bon. Mais très franchement, des fois, je vois des feuilles de match, je vous jure, je vois...
non, mais... si je peux me permettre, Grégory, l'Olympique de Marseille s'est incliné à domicile contre Ajaccio.
Oui, hein. Mais ça va toujours arriver. Mais regardez,
il y aura toujours un contre-exemple.
Non, mais voilà, il y aura toujours un contre-exemple. Mais, regardez...
mais ça existe aussi dans les autres championnats.
Le meilleur exemple, c'est Angers.
Non, mais on parle du championnat de France. Bon, si je vous dis qu'il est moins équilibré qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'est comme ça. Pas parler du championnat turc non plus. Donc je veux dire, non mais voilà, donc essayez quand même, ayez cette perspective-là, parce que quand vous allez dans ces clubs-là, allez parler au président de Brest ou allez parler à.
On a cette perspective. Moi personnellement, je l'ai, mais très sincèrement, ça fait combien de temps qu'on n'a pas des coachs aussi brillants à la tête de nos locomotives
en Ligue 1. Non mais c'est vrai.
Et je mets la locomotive.
Qui
propose du foot, du jeu.
Chatoyant,
c'est ça, du c'est jeu, des attaques, c'est de la générosité. Franchement, je prends plaisir à retrouver à regarder cette Ligue 1, et c'était pas le cas les années précédentes.
Ce que je veux juste dire, c'est que quand Monaco met 7 Ajaccio, pour moi tout à fait personnel, ça veut pas dire grand chose. Voilà, on va le dire comme ça.
Il y a des jours avec et il y a des jours sans. 22h38, le foot qui continue. On va parler de l'équipe qui déséquilibre peut-être un petit peu toutes les autres, tout de suite.